Jean-Marc Delfieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Tikehau. On va parler avec vous de marché obligataire, de perspective sur ces marchés. On le sait, pour l'ensemble des investisseurs, les banquiers centraux font aujourd'hui, je dirais, l'essentiel, hein, en tout cas sur cette valorisation des actifs. Comment vous regardez, vous, ce qui se passe d'abord aux États-Unis? Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à y voir un peu plus clair?
Ouais, pas forcément. La Fed a changé de mode, c'est-à-dire qu'elle est passée dans un mode qui sera plus à l'écoute des signaux économiques. Donc elle va prendre ses décisions de normalisation, donc de relèvement des taux directeurs courts, en fonction des indicateurs économiques, qui ont plutôt d'ailleurs récemment, à part l'emploi, donné une tendance un petit peu décevante. Nous pensons chez Tikehau que la normalisation arrivera plutôt en septembre qu'en juin, septembre ou même peut-être un peu plus tard. Ça dépendra effectivement de la bonne tenue de l'économie américaine.
La Réserve fédérale qui se redonne les moyens d'agir finalement quand elle veut, c'est aussi une manière de dire au marché qu'elle reprend un peu la main sur cette visibilité peut-être trop grande.
Alors oui, autant en Europe, la visibilité est très très claire sur la partie politique monétaire. Les taux vont rester bas longtemps, en tout cas les taux courts. Aux États-Unis, effectivement, la Fed prend acte d'une croissance qui revient, alors qui est inégale, qui est effectivement plus lente que ce qu'on a constaté lors des derniers cycles, mais qui revient, c'est une bonne nouvelle. Et elle dit très clairement qu'elle a la main. Voilà. Donc ça, c'est... Là aussi, le message est relativement clair sur sa volonté de normalisation. Ça peut apporter un petit peu de volatilité. Et ça a déjà apporté la volatilité sur les taux d'intérêt, qui peut se propager à d'autres classes d'actifs. On pense notamment au marché émergent, voire éventuellement aux actions à un moment. Mais pour l'instant, la Fed reprend la main, effectivement. Et elle reprend la main un peu toute seule. C'est la difficulté et le paradoxe de la période actuelle. C'est-à-dire que c'est la seule zone qui peut normaliser et remonter les taux directeurs. Toutes les autres zones sont plutôt à la baisse et continuent à le faire.
Oui, avec effectivement au cours des derniers mois, peut-être deux facteurs qui sont intervenus, hein, la hausse du pétrole, la baisse du pétrole et la hausse du dollar. Ça a pu influer sur... la manière dont la Fed justement voyait un peu cette sortie, cette normalisation.
Oui, ça a pu influer et ça pourra continuer à le faire, même si on sent quand même la Fed relativement décidée. Je crois que pour elle l'a dit, ces deux facteurs ne sont pas de nature pour l'instant à changer les fondamentaux en amélioration de l'économie américaine. Donc, pour l'instant, on n'a pas l'impression, alors ça peut décaler un petit peu le timing, peut-être, c'est possible. Mais pour l'instant, je crois que la tendance est relativement claire.
Alors de l'autre côté, effectivement, de l'Atlantique, c'est la Banque Centrale Européenne. Elle, ce quantitative easing, hein, c'est effectivement, a eu, j'irais, des effets sur les actifs, sur le marché, clairement.
Très clairement. Alors, ça a poussé les taux d'intérêt de tous les pays européens à la baisse, et fortement à la baisse. Le Bund est à 0,20 sur du 10 ans. Il faut maintenant aller jusqu'à 8 ans pour trouver, sur la courbe allemande, pour trouver des rendements positifs, jusqu'à 5 ans sur la courbe française. Et donc, ça a créé une sorte d'effet d'éviction de tous ces investissements obligataires dits sans risque, donc gouvernementaux, et ça a poussé les investisseurs à aller chercher du rendement là où il y en a, parce qu'il y en a plus ou très peu sur les emprunts d'État européens. Et donc ils se sont tournés vers le crédit corporate. Alors au départ l'investment grade, puis lorsque les taux actuariels de l'investment grade ont continué de baisser, ils sont tournés un peu plus vers le high yield, et ils continuent. On pense que ça devrait être toute l'histoire de 2015, mais aussi sur certains actifs financiers comme les subordonnées financières par exemple. Et puis effectivement, les actions aussi ont beaucoup monté par la recherche de rendement ou en tout cas de potentiel de potentiel de performance.
Là, ça devrait effectivement continuer, c'est-à-dire que ce programme est mis en place pour 18 mois, hein, en tout cas potentiellement sur 18 mois. Ça devrait continuer avec tout de même donc ce qu'on disait sur les taux, ce qui se passe sur les taux américains. C'est-à-dire traditionnellement, quand on a une divergence, hein, de banque centrale, il faut revenir à la Bundesbank. Les investisseurs n'aiment pas trop quand il ne se passe pas la même chose côté États-Unis, côté Europe. Est-ce que ce n'est pas un peu le scénario de deuxième semestre 2015?
Ouais, c'est toute la question. Effectivement, habituellement, enfin, historiquement, on a constaté que lorsque les taux américains qui donnaient un peu le là montaient, les taux européens montaient également. Il est possible que ça se passe comme ça, mais là, il y a quand même, en 2015, une force énorme acheteuse qui est le programme de quantitative easing de la BCE, et ça, ça brouille quand même tous les réflexes habituels. Donc, on peut imaginer que, effectivement, une hausse des taux américains conduise à peut-être une stabilisation des taux européens, et peut-être si les taux américains montaient énormément, il y aurait peut-être un suivi sur les taux européens, mais vraiment la force acheteuse de la BCE est juste gigantesque. Donc ça va garder les taux souverains européens sous pression bas longtemps.
On a vu aussi des effets, alors on parlait du dollar, mais donc et de ce quantitative easing de la BCE sur d'autres zones, les zones émergentes par exemple, il y a un effet aussi sur les taux, sur les émergents, qu'est-ce qu'on en dit?
Alors, les émergents ont toujours été sensibles et sont toujours sensibles à la politique monétaire américaine, puisque une partie de leur financement, soit des gouvernements, soit des corporates, est fait en dollars. Donc effectivement, en général, une hausse des taux américains conduit à une certaine agitation sur les marchés émergents. Donc voilà, à surveiller les marchés émergents, sachant que on a l'impression que cette fois-ci, dans ce cycle-là, les marchés émergents ont une duration, c'est-à-dire une durée de vie moyenne de leur endettement qui est plus longue que dans les précédents cycles, notamment sur la partie courte de leur endettement est effectivement un peu plus libellée en devises locales qu'en dollars, ce qui est une différence assez marquée par rapport au cycle précédent.
En conclusion, donc, les investisseurs qui s'intéressent malgré tout à ces marchés obligataires, qui ont fait de la performance, on peut le rappeler au cours des dernières années, quelle est un peu l'allocation d'actifs que vous mettez en place?
Alors nous, les emprunts d'État, comme le Bund à 0,20 ou l'OAT française 10 ans à 0,60, ça commence à un peu moins nous parler. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans le prix. Il y a certainement des flux acheteurs. Alors c'est la BCE, on l'a dit, c'est d'autres acheteurs forcés comme les banques, par exemple, pour le ratio de liquidité. Mais est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque à ces niveaux-là? On commence à être un peu peut-être un peu dubitatif. Donc pour ne pas avoir ce souci de mouvement de taux, on recommande le crédit, et le crédit notamment le high yield européen, notamment les simples B peut-être, qui devraient bénéficier d'un euro effectivement beaucoup plus bas contre dollar et contre beaucoup de devises, de taux de refinancement beaucoup plus bas qu'il y a encore un an ou deux ans, et puis effectivement d'un effet pétrole bas qui est plutôt de nature, tout ça, à améliorer les fondamentaux économiques de la zone euro, ce qui devrait bénéficier aux émetteurs les moins bien notés, par exemple, comme les simples B, mais on aime bien aussi les subordonnées financières. Pour nous, les subordonnées financières et notamment les nouveaux formats, les subordonnées perpétuelles bancaires, les AT1, comme on les appelle. Pour nous, c'est une classe d'actifs qui est émergente, qui commence à intéresser les investisseurs, qui maintenant commence à être convaincu que les banques sont beaucoup mieux capitalisées qu'avant la crise financière, c'est-à-dire à peu près deux fois mieux capitalisées. Elles sont en grande partie déleveragées, elles ont nettoyé leur bilan en très grande partie, et elles sont maintenant très régulées, c'est-à-dire qu'on a l'impression que leur modèle économique tend un petit peu vers une utilities au service de l'économie. Et tout ça fait que les créanciers, qu'ils soient seniors ou subordonnés, sont pour nous beaucoup mieux protégés qu'avant la crise. Donc voilà, on pense que c'est une bonne classe active pour 2015.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous, Jean-Marc Delfieux.
Merci pour vos invitations.